Le cas des gendarmeries syriennes et libanaises illustre bien certaines des thématiques que l'on a déjà abordées hier et ce matin, qu'il s'agisse aussi bien des logiques qui conduisent à exporter et adapter le modèle gendarmique français, ou qu'il s'agisse du rôle joué par la gendarmerie dans l'avènement d'un état de droit. Car la création de ces gendarmeries syriennes et libanaises interroge tout autant sur les ambitions de la France au Levant que sur la portée de ce choix pour les futurs États de Syrie et de Liban. Alors, militairement parlant, la France est présente au Levant depuis la fin de la Première Guerre mondiale. Avant même que soit reconnue son autorité mandataire par la SDN, la France va s'assigner le rôle de rétablir l'ordre extrêmement troublé dans cette région. Or, à cette époque, le principal danger provient de bandes de cavaliers armés qui pillent et mettent à sac le pays, surtout dans sa partie nord, en Cilicie. Alors, les forces françaises sont lourdement équipées et ne savent absolument pas répondre à ces attaques qui sont tout aussi évanescentes qu'efficaces. Donc, afin de lutter à armes égales, les autorités françaises vont décider, entre autres, de réanimer les anciennes forces de gendarmerie ottomane. Donc, les tout premiers escadrons de gendarmerie autochtones au Levant en présence de la France sont donc des gendarmeries mobiles. Ensuite, devenue puissance mandataire en 1920, la France va chercher à façonner une gendarmerie à son image. Elle institue des missions dites de réorganisation des gendarmeries locales. Et le règlement de ces nouvelles gendarmeries est très fortement inspiré du décret de 1903, tout comme l'étaient d'ailleurs précédemment les gendarmeries ottomanes. Donc cette création française des gendarmeries syriennes et libanaises s'appuie sur une tradition gendarmique préexistante au mandat. Alors, même si ces nouveaux gendarmes sont parfois recrutés au sein de la gendarmerie ottomane, ces gendarmes syriens et libanais vont tous recevoir une formation dispensée par des gendarmes français, les gendarmes présents au Levant, qui sont en fait les gendarmes prévôtaux du Levant. L'homologie entre la gendarmerie française et les gendarmeries syriennes et libanaises est prégnante. L'organisation de ces nouvelles gendarmeries, les missions qui leur sont dévolues, comme les pratiques professionnelles, rappellent en tout point le modèle français. Même l'uniforme est d'inspiration française. Je vous ai trouvé une petite photo. En fait, les documents photographiques des gendarmeries syriennes et libanaises sont assez rares. Là, il s'agit donc de la gendarmerie syrienne. Ce sont des gendarmes à cheval. On le reconnaît à leurs bottes. Et donc, leur uniforme est similaire à celui des Français. Il est cependant à dominante kaki avec des insignes verts. Et les gendarmes syriens vont même adopter le képi français, dont ils enlèveront toutefois la visière. Vous pouvez le voir sur la photo. Et ceci pour faciliter leurs exercices de prière. Seule petite différence, les dénominations hiérarchiques qui demeurent pour la gendarmerie syrienne, les mêmes que celles qui étaient dans la gendarmerie ottomane, ce qui d'ailleurs n'est pas sans froisser les Syriens, qui ont l'impression que la France souhaite par ce fait asseoir sa domination à l'image de celle du pouvoir ottoman précédent. Évidemment, ils auraient bien préféré des appellations arabes. Alors, quel peut être l'intérêt de la France à cette époque de créer des gendarmeries alors qu'elle s'appuie déjà sur un nombre pléthorique de milices comme de forces supplétives? Le premier argument repose bien évidemment sur le professionnalisme attendu de cette formation. Mais ces gendarmeries, il faut le reconnaître, offrent aussi une économie substantielle à la France qui est toujours avide de limiter les coûts de sa présence. Et en fait, ces gendarmeries syriennes et libanaises qui sont placées sous la tutelle de la France sont cependant à la charge financière des États du Levant. D'ailleurs, ces gendarmeries vont épouser la géographie fluctuante de ces États du Levant. Elles sont sept. Je vous ai mis là aussi un petit... Alors, ça, c'était donc les noms de la hiérarchie de la gendarmerie syrienne, donc qui sont d'origine ottomane. Et puis ici, donc en 1921, vous voyez, il existe donc six gendarmeries au départ, puisqu'il existait... Non, sept, pardon, puisqu'à cette époque, il y avait sept États du Levant. hein, qui vont ensuite devenir seulement deux États, l'État libanais et l'État syrien. Donc, de fait, finalement, à partir de 1927, donc 1927 étant la date de la grande réforme des gendarmeries locales, elles ne seront donc ensuite que plus que deux entités. D'autre part, ces gendarmeries vont obtenir une place unique dans l'architecture policière du Levant. En effet, pendant le mandat, les forces militaires françaises demeurent massivement présentes, hein, au minimum 40 000 hommes. À leur côté, les États du Levant financent une future armée nationale qui sont les troupes spéciales du Levant à hauteur à peu près de 16 000 hommes. Toutefois, c'est les États du Levant n'ont pas le commandement direct de ces troupes. Vient ensuite les gendarmeries dites locales, donc qui deviendront syriennes et libanaises, puis très marginalement, les polices syriennes et libanaises, instruites elles aussi sur le modèle français, mais qui ne réunissent qu'une centaine d'hommes, donc c'est une force tout à fait marginale. Donc si pendant toute la durée du mandat, cet argument financier va souvent présider à la survivance de ces gendarmeries, la politique de la France à leur égard n'en demeure pas moins ambivalente. En effet, les militaires français ne se départissent jamais des très vives réticences qu'ils portent à l'égard de toutes les forces armées locales, y compris à l'égard des gendarmeries syriennes et libanaises. Leurs appréhensions, elles portent surtout sur une éventuelle collusion de ces gendarmeries avec les nationalistes arabes. Et d'ailleurs, elles seront tout à fait justifiées, puisque pendant la grande insurrection qui va ensanglanter le Levant entre 1925 et 1927, la gendarmerie druze va passer en totalité du côté des insurgés nationalistes. Donc les autorités françaises s'attachent à constituer des gendarmeries structurées, solidement instruites, mais sans toutefois leur fournir les moyens de s'imposer comme une véritable force coercitive. Ces gendarmeries syriennes et libanaises sont donc en quelque sorte des coquilles vides. Des coquilles vides à tel point qu'en 1939, les gendarmes syriens et libanais ne sont qu'une poignée, ils sont moins de 5000 hommes. Et il manque de tout. Il manque aussi bien de vêtements, de couvertures, de casques. L'utilisation de voitures est quasiment inexistante. La majorité des gendarmes se déplacent à pied ou à cheval. Et quand ils sont cavaliers, l'investissement de leur monture est à leurs frais. Et même les indemnités de fourrage sont tellement insuffisantes que leurs montures sont vraiment dans un mauvais état. La plupart des gendarmes n'ont pas les moyens de s'offrir une selle. Ils montent à cru, alors que ce n'est pas du tout la tradition syrienne. Le casernement est aussi à l'image du dénuement de ces gendarmeries. Les caracoles, qui sont donc les petits postes de gendarmerie isolés, sont abrités dans d'anciens fortins ottomans qui montrent des signes vraiment avancés de vétusté, qui sont inondés. Là aussi, j'ai trouvé une photo d'un fortin. Alors celui-ci est très beau, hein. Et grand. La plupart des fortins étaient évidemment n'étaient pas à l'image de celui-ci, mais ça vous donne une petite idée de l'architecture de ces fortins qui n'étaient pas forcément adaptés au service des gendarmes syriens. Et en plus, dans ces locaux qui sont donc le plus souvent exigus, cohabitent non seulement les gendarmes, mais aussi toute leur famille. Dernier point, la solde de ces gendarmes syriens et libanais, elle est 2 à 3 fois moins élevée que celle des militaires des troupes spéciales, des futures armées donc syriennes et libanaises. Là encore, je me suis permis de vous montrer un petit diagramme qui montre bien un petit peu la différence de traitement. Toutefois, les principales revendications des gendarmes syriens et libanais concernent la question de l'armement. Les gendarmes sont équipés de vieux fusils allemands, anglais ou turcs récupérés après la débâcle de 1918. Ces armes sont lourdes, vétustes et elles ne sont même pas au nombre des gendarmes. Ainsi, en 1933, le chef d'escadron Naudin, qui commande alors la gendarmerie syrienne, se plaint dans un rapport comme quoi 150 de ces gendarmes n'ont pas d'armes, ne sont pas armés. Il relate aussi que lors d'un engagement sur deux chargeurs, une seule cartouche est partie et que vérification faite, cet incident pouvait également être imputé à l'arme comme aux munitions. Donc cette situation compromet gravement l'action répressive des gendarmeries locales, c'est évident. Or, cette situation, qui est principalement imputable aux réticences françaises, est aussi paradoxale, puisque les gendarmes français, c'est-à-dire en fait les gendarmes prévôtaux du Levant, travaillent de concert avec les gendarmeries syriennes et libanaises pour assurer le maintien de l'ordre public. Cette situation donc perdure pendant l'ensemble de l'entre-deux-guerres et même pendant donc la Seconde Guerre mondiale. Après la campagne de Syrie, le sort des gendarmeries syriennes et libanaises va susciter beaucoup d'interrogations. Les forces françaises libres n'ont alors plus les moyens d'assurer le commandement direct de ces gendarmeries. Et donc, à partir de 1941, le transfert de ces gendarmeries syriennes et libanaises s'effectue de facto, sans aucune publicité. Et donc, à partir de cette date, ces gendarmeries syriennes et libanaises sont définitivement placées sous la tutelle de leurs États respectifs. Là encore, j'ai un petit document. Une photo précieuse que j'ai retrouvée, donc qui présente la remise de l'étendard à la gendarmerie syrienne, donc lors de ce transfert en 1941. Mais bien que sorties du giron français, ces formations sont toujours asphyxiées par les autorités françaises qui restent farouchement opposées à leur renforcement, que ce soit en hommes ou en matériel. À sa décharge, il faut reconnaître que la France libre au Levant ne dispose ni de stock ni de crédit pouvant lui permettre de répondre aisément aux demandes des gendarmeries locales. Et c'est vrai qu'à partir de 1941, la situation est extrêmement complexe au Levant. Je vous rappelle, donc le général de Gaulle a certes renégocié avec les accords de Saint-Jean-d'Acre la prééminence française au Levant, mais les Britanniques disposent, eux, sur ce territoire, d'effectifs militaires 5 fois plus importants que les forces françaises libres. De plus, le général Spears est devenu un farouche détracteur du général de Gaulle et il mène une très sévère politique anti-mandataire au Levant. De leur côté, les nationalistes arabes aspirent toujours à une indépendance rapide et jouent bien évidemment pour se faire de la rivalité franco-britannique au Levant. Enfin, les gendarmeries syriennes et libanaises, elles représentent désormais pour les futurs États de Syrie et de Liban la première et unique force coercitive à leur disposition. Mais l'état d'indigence dans lequel ces gendarmeries se trouvent masque complètement aux nationalistes arabes l'éventuel intérêt stratégique de ces formations. Donc la prise de conscience du rôle que peut jouer la gendarmerie auprès de l'État est donc très progressive au Levant. Première phase, lors de la crise que connaît le Liban en 1943. Cette crise, qui aboutira donc au pacte libanais, est le théâtre d'une première et anecdotique tentative de mainmise des nationalistes arabes sur la gendarmerie libanaise. Au cœur de la crise, alors que la France a arbitrairement arrêté la plupart des membres du gouvernement libanais, deux ministres ont été épargnés et ces deux ministres vont former, le temps d'une dizaine de jours, un éphémère projet de résistance, pompeusement appelé le Liban libre. Dans la réalité, ces deux hommes prennent le maquis et ils vont imaginer pouvoir réunir une armée suffisamment importante pour marcher contre la France. Alors cette aventure est tout à fait utopique, mais elle nous intéresse principalement au titre du rôle conféré à la gendarmerie libanaise pour la constitution de cette armée nationale. Car non seulement la réalisation de cette tâche est confiée à un commandant de la gendarmerie libanaise, mais en une seule semaine, celui-ci, grâce à l'infrastructure des gendarmeries libanaises, va réussir à recruter 800 hommes. Donc cette aventure sans lendemain du Liban libre est révélatrice à la fois de l'enjeu que peut représenter la gendarmerie en tant qu'unique force coercitive à la disposition du gouvernement, mais aussi dans sa capacité à structurer et à encadrer une éventuelle armée nationale. Or, à partir de 1944, l'opposition française au transfert des troupes spéciales va cristalliser autour des gendarmeries syriennes et libanaises de nouveaux enjeux. Il faut savoir que la France, à cette époque-là, tente de négocier le transfert des troupes spéciales au prix d'un traité d'alliance auquel la Syrie est catégoriquement opposée. De leur côté, les autorités syriennes se savent aussi dans l'impossibilité d'obtenir le ralliement et le contrôle de ces troupes spéciales par la force. En fait, bien plus qu'une question de légalisme, le chef du gouvernement syrien est tout à fait conscient qu'en appelant éventuellement ses hommes au ralliement, il risque en fait de susciter un très grand désordre immaîtrisable et qui justifierait alors l'intervention des puissances impériales qui sont déjà sur place, à savoir évidemment la France et les Anglais. Dès lors, la question de l'armement des gendarmeries syriennes et libanaises s'érige au centre de ces négociations franco-arabes. D'autre part, cette question de l'armement des gendarmeries va faire l'objet d'une très habile instrumentalisation de la part des Britanniques. Mais derrière ces manœuvres britanniques, elles sont aussi facilitées par le renouvellement du personnel français après la campagne de Syrie. Ce personnel, il a désormais en grande partie une expérience coloniale et il est totalement étranger aux problématiques propres du Levant. Donc ces nouveaux Français du Levant, après 1941, ne perçoivent dans les revendications syriennes et libanaises qu'une machination britannique. De plus, la fin de la guerre arrive et la France entend profiter de cette victoire pour réaffirmer sa puissance dans le monde arabe. Enfin, l'immission des Américains dans le règlement de la fin de la Seconde Guerre mondiale, l'ONU, ce sont des occasions pour les Syriens et les Libanais de hisser leurs revendications sur la scène internationale. Donc tout dans ce contexte géopolitique complexe au Levant concourt à une radicalisation de la relation franco-levantine. Et cela va arriver au début du mois de mai 1945, l'arrivée annoncée de nouveaux renforts français sur le territoire du Levant, sous couvert d'une relève, déclenche brutalement les hostilités. Et en moins d'un mois, l'insurrection adopte un caractère national et toutes les troupes françaises sont adressées sur chacune de leurs positions. Alors, les archives françaises dressent évidemment un tableau assez confus de cette guérilla qui, pour l'essentiel, est urbaine. Toutefois, à chaque incident, on note la présence récurrente de gendarmes syriens. Cela tient-il davantage à la visibilité de leur uniforme ou à leur rôle présumé dans l'organisation de ces combats ? Si aucune archive ne peut explicitement confirmer l'existence d'un quelconque dessein concernant la gendarmerie syrienne, il est néanmoins certain qu'entre le mois de mai 1945 et le mois de juillet 1945, cette gendarmerie syrienne a quasiment quadruplé ses effectifs. Elle rassemble alors plus de 14 000 hommes, soit à peu près l'équivalent au même moment des troupes spéciales syriennes. D'autre part, les services de renseignement français relayent l'idée d'une incorporation massive de civils, mais surtout de déserteurs, dans les rangs de la gendarmerie syrienne. Alors, fort de ces éléments, il devient évident que la gendarmerie syrienne a assuré un rôle de structure mère pour héberger la future armée nationale, corroborant ainsi les missions logistiques, comme les missions de commandement opérationnel qu'on lui prête pendant cette insurrection. C'est donc à ce titre que la gendarmerie syrienne offre un exemple saisissant de participation d'une gendarmerie à l'avènement d'un État-nation. Quid alors des liens de filiation entre gendarmerie française et gendarmerie syrienne ? Ces deux formations connaissent au moins jusqu'en 1944 une homologie de travail assortie d'une coopération quotidienne sur le terrain. Néanmoins, le rôle de la gendarmerie syrienne pendant l'insurrection de 1945 interroge. La violence de certaines exactions menées à l'encontre des gendarmes français est-elle le fruit d'une personnalisation des combats entre gendarmes ? Que faut-il penser lorsque tous les membres d'un petit poste prévôtal sont massacrés et même découpés en morceaux sous l'œil impassible de gendarmes syriens qui appartiennent à cette localité et qui étaient leurs collègues de la veille ? Donc ces violences insurrectionnelles portent-elles une dimension cathartique ? Il me semble qu'il serait toutefois réducteur d'expliciter ces événements de mai 1945 à l'échelle seule de la Syrie. À l'image de la relation mandataire, il me semble que la relation gendarmique au Levant témoigne surtout, dans un contexte de décolonisation, des enjeux primordiaux et des blocages existants entre la France et la Syrie en 1945. En revanche, jusqu'à la veille de cette insurrection, la gendarmerie syrienne a fait montre d'un certain savoir-faire, notamment dans l'exercice du maintien de l'ordre public. Alors, sans qu'il soit véritablement possible de conclure à un parangon de la gendarmerie française au Levant, on peut néanmoins s'autoriser à penser que la transmission des valeurs éthiques et fondamentales de l'arme a permis à la gendarmerie syrienne d'être pleinement au service de sa nation, travaillant au cours des événements du mois de mai 1945 à libérer l'exercice du pouvoir exécutif en Syrie. Et c'est à ce titre que le nom de fille de la gendarmerie française, que l'on a longtemps prêté aux gendarmeries syriennes et libanaises, pourrait, à défaut d'être légitime, tout du moins audible. Je vous remercie de votre attention.